9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. La France est-elle aussi ingouvernable qu'on le dit depuis les résultats des élections législatives? On va voir ça dans un instant avec le politologue Vincent Martini. Et puis l'on s'intéressera au couloir de Suwalki avec Patrick Martin-Jeunier. Vous vous souvenez du couloir de Danzig qui a déclenché la Deuxième Guerre mondiale? Eh bien le couloir de Suwalki, c'est exactement pareil, en beaucoup plus dangereux. Et l'on terminera l'émission avec Albina Dubois-Rouvray. Elle a été la première femme en France à devenir une grande productrice de cinéma. Elle vient enfin de publier ses mémoires. Vincent Martini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, professeur à l'université de Nice et à l'école polytechnique, chercheur au CEVIPOF, à Sciences Po. On entend à peu près tout et n'importe quoi depuis les résultats du deuxième tour des législatives. La France est-elle aussi ingouvernable qu'on le dit? Emmanuel Macron n'a pas la majorité absolue, il lui manque plus de 40 députés. Enfin, il a la majorité.
Oui, absolument. Alors, sur ce sujet, on entend surtout, vous dites tout et n'importe quoi, on entend surtout n'importe quoi. C'est qu'on a, l'impression que finalement tout se joue au Parlement, que dans une situation même où le Parlement serait bloqué, il n'y aurait plus de politique mise en œuvre dans ce pays, et même que le président de la République actuelle disposerait, avec une majorité relative, d'une force qui lui serait incapable de passer quelconque loi que ce soit. Alors, à cela, on peut dire d'abord deux choses. La première, c'est que uniquement une partie assez marginale de la vie politique se passe au Parlement. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Nous ne vivons pas dans un système parlementaire, mais dans un système semi-présidentiel, c'est-à-dire qui donne au pouvoir exécutif énormément de marge de manœuvre pour agir en dehors du Parlement. Je vous donne un exemple. La Première ministre, Elisabeth Borne, n'a pas obligation à se soumettre à un vote de confiance lorsqu'elle déclare sa déclaration de politique générale. C'est un usage, mais ce n'est pas obligatoire. Donc elle peut tout à fait former un gouvernement et commencer à agir au service des Français sans avoir vraiment besoin du soutien du Parlement dans un premier temps. Par ailleurs, vous avez toute une série de politiques qui se mettent en place essentiellement au niveau local, au niveau des villes, des départements, des régions. Donc ça c'est une première chose. Et puis il y a un deuxième niveau de réponse qui est que, même en l'absence de majorité absolue, la majorité présidentielle, enfin ou plutôt le groupe présidentiel représentant le principal groupe au Parlement, il peut, par un jeu d'abstention par exemple, obtenir le soutien sur certains textes de la part d'une partie des groupes qui lui suffisent, sans atteindre la majorité absolue, pour pouvoir faire voter des lois.
Vincent Martini, Emmanuel Macron a une moins grande marge de manœuvre aujourd'hui que durant son premier quinquennat, mais j'ai l'impression qu'il en a une plus grande que la plupart de ses homologues européens, Olaf Scholz ou Mario Draghi ou Joe Biden.
Alors c'est vrai parce que, par exemple, aux États-Unis, pour comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire un système présidentiel avec un système présidentiel ou presque, Joe Biden n'a pas la majorité au Congrès et donc il est très souvent bloqué par le Congrès qui lui dispose de véritables pouvoirs, ce qui n'est pas vraiment le cas en France puisque je rappelle que l'ordre du jour, par exemple, est partagé entre le Parlement et le gouvernement et que le pouvoir exécutif dispose de toute une série d'instruments qui lui permettent un peu de contraindre le Parlement. Je pense aux procédures de vote bloqué, aux procédures d'accélération, ce qu'on appelle la procédure accélérée qui permet de voter une loi sans permettre à l'opposition de déposer trop d'amendements. Toutes ces questions font que finalement le pouvoir exécutif conserve la main. Alors après, on peut pas vraiment comparer à l'Allemagne, par exemple, parce qu'en Allemagne, il y a toute une histoire de compromis. Il y a cette habitude sur un certain nombre de projets, de trouver des solutions pour s'entendre malgré les différences idéologiques. En France, c'est pas exactement pareil, pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il y a eu une histoire de la vie politique française qui fait que ces compromis sont très peu fréquents. En réalité, il y a une histoire de confrontations idéologiques qui sont très fortes en France et qui montre qu'on n'a pas exactement la même culture, même si, bon, c'est pas grave, on pourrait la découvrir, cette culture. Deuxièmement, et ça c'est plus embêtant, c'est que Emmanuel Macron a pendant 5 ans méprisé le Parlement, il a méprisé l'opposition, et aujourd'hui, l'opposition peut être tentée de lui faire payer ce mépris, cette façon de considérer que le Parlement était quantité négligeable. Donc là, on n'est pas exactement dans la même situation.
Mais Vincent Martini, cette culture du compromis, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu un gros mot, le compromis, mais cette culture du compromis, on va devoir la redécouvrir, parce qu'on l'a connue sous la Troisième République. C'est avec des compromis qu'on a écrit les grandes lois de la République, les lois sur la liberté de la presse, sur la liberté des syndicats, d'association, sur l'éducation, sur la laïcité. Mais c'est vrai qu'on en a perdu l'usage sous la Cinquième. C'est là que le mot s'est revêtu d'une connotation négative. Il faudrait peut-être le réhabiliter, comme le mot parlement.
Vous avez Vous avez tout à fait raison, mais en effet, le mot compromis va avec le mot Parlement, ou plutôt le pouvoir qu'on donnerait au Parlement. Parce que les périodes auxquelles vous faites référence, la Troisième puis la Quatrième République jusqu'en 1958, eh bien, sont des périodes dans lesquelles le Parlement avait beaucoup de pouvoir. En fait, la fabrication du pouvoir, le pouvoir se trouvait au Parlement, puisque le président de la République avait essentiellement un pouvoir symbolique. Ce qu'a changé la Ve République en transférant énormément de pouvoir au président de la République, et puis encore plus de pouvoir à partir du moment où ce président était élu à partir de 1962 au suffrage universel direct, hein, alors qu'avant c'était les assemblées qui élisaient le président, eh bien ce pouvoir s'est perdu. Et vous savez, quand on n'a pas beaucoup de pouvoir, eh bien c'est là où on est moins prompt à faire des compromis, puisque pourquoi on ferait des compromis? Puisque ça n'a pas d'importance d'une certaine manière. Et si on ajoute à cela qu'il y a toujours eu des majorités très stables en faveur, hormis quelques exemples, hein, du général de Gaulle en 58, de Michel Rocard en 88 ou des gouvernements Bérégovoy et Cresson jusqu'en 93, la plupart du temps, le président de la République avait une majorité à sa main qui lui permettait de faire ce qu'il voulait. Donc bah là, oui, aujourd'hui, il y a tout un usage nouveau qu'il faut repenser avec un nouveau rapport de force qui n'est plus aussi favorable au président.
Mais alors justement, vous l'avez dit, depuis que Emmanuel Macron n'a pas eu la majorité absolue, on a dit et répété que c'était sans précédent dans l'histoire de la Ve République. Or, vous venez de le dire, Michel Rocard a connu la même chose et les deux qui lui ont succédé, Edith Cresson et Pierre Bergoglio, mais même le général de Gaulle l'a connu, ça, en 1958.
Alors absolument, en 1958, le général de Gaulle n'a pas obtenu la majorité absolue à la Chambre, et donc il a dû composer avec différentes forces, à l'époque les chrétiens démocrates, mais encore une partie des socialistes, hein, il avait nommé l'un d'entre eux ministre, mais c'était quand même une période dans laquelle le général de Gaulle jouissait d'un capital politique très important, puisqu'il a été au-delà de son rôle évidemment pendant la guerre, il venait de revenir au pouvoir, il venait de fonder la Ve République, il venait d'obtenir un résultat incroyable, 89% de oui pour la création de la Ve République. Donc c'était plus facile pour lui, je crois, de tendre la main parce qu'il jouissait d'une légitimité immense. Ce qui n'est pas vraiment le cas d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Pour Michel Rocard, les choses étaient un petit peu différentes. Michel Rocard et Edith Cresson et Pierre Bérégovoy, c'est qu'il leur manquait une dizaine de voix. Donc quand il vous manque 10 voix, vous pouvez toujours aller débaucher les uns et les autres. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, ils sont allés voir les centristes. Notamment Jean-Pierre Soisson, à la tête d'un petit groupe de centristes, avait accepté la politique d'ouverture du gouvernement Rocard et de ses successeurs. Alors là, ce qui est un peu plus compliqué pour Emmanuel Macron, c'est qu'il ne lui manque pas 10 sièges, 10 députés, mais il lui en manque une quarantaine, 42 pour être précis, même s'il semble avoir trouvé quelques-uns d'entre eux, puisqu'il a parlé d'une trentaine lors de son allocution du 22 juin. Et puis encore une fois, parce que face à lui, il a des oppositions qui sont résolues à lui faire payer, on va dire, la façon dont il les a traités pendant 5 ans. Donc là, on est à la fois dans une situation dans laquelle le président a moins de capital politique, il a moins de légitimité politique, suite à une campagne qui a été quand même très compliquée pour lui, hein, puisqu'il a été réélu, certes, mais contrairement à ce qu'il disait, pas vraiment sur un projet clair, et certainement pas que sur son nom, puisque la question du barrage à Marine Le Pen a joué, notamment au sein de ce qui aujourd'hui constitue la NUP et de ses électeurs, mais aussi parce que il lui manque vraiment des marges de manœuvre importantes pour obtenir cette majorité absolue. Moi, il me semble que là, la solution pour lui, c'est de renoncer à cette majorité absolue et d'essayer d'obtenir des majorités relatives en espérant que, sur certains sujets, il va y avoir des formes d'abstention qui vont faire baisser le seuil de la majorité pour pouvoir passer des lois.
On fait une pause, Vincent Martini, on se retrouve juste après, vous avez encore beaucoup de choses à nous apprendre.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec le politologue Vincent Martini. Non, la France n'est pas ingouvernable. Parmi toutes les choses qu'on a pu entendre cette semaine, il y en a eu beaucoup concernant la présidence de la Commission des Finances. À qui ça doit revenir? À qui faut-il l'attribuer? Le problème, c'est que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, hein, Vincent Martini.
Alors non, pas exactement, parce qu'en théorie, depuis 2008, et la réforme qu'on appelle Sarkozy, la réforme Sarkozy des institutions liée à la commission Balladur qui avait été réunie à la demande de Nicolas Sarkozy, eh bien, on donne la présidence de la prestigieuse et puissante commission des finances de l'Assemblée au premier groupe d'opposition. Alors ça, c'est pas inscrit dans la Constitution, c'est devenu un usage. En quoi ça consiste? Eh bien, lorsqu'on élit le président de cette commission, la majorité ne prend pas part au vote et laisse les oppositions désignaient le représentant du groupe principal. Sauf que jusqu'à présent, on n'était pas dans des cas de coalition. Et donc lorsque, par exemple, le Rassemblement national dit « nous sommes techniquement le plus gros groupe d'opposition », ils ont raison en nombre, hein, ils sont plus importants que LFI, par exemple, qui a une dizaine de députés de moins qu'eux, Mais sauf que lorsqu'on prend part à un vote général, évidemment, la NUP, avec ses 142 députés, sont beaucoup plus nombreux que les 89 députés RN. Si on ajoute à cela le fait que la majorité n'a peut-être pas envie que ce soit un membre du Rassemblement national qui prenne la tête de la commission des finances, on se rend compte que, dans les usages, on pourrait faire évoluer cela en disant c'est le principal coalition d'opposition qui pourrait disposer de la présidence de la commission des finances.
Bon,
alors, il faut ajouter
pardon,
également à ça le fait que...
Pardon de vous interrompre, on pourrait le dire plus simplement. En fait, au moment du vote, les députés de la majorité ne votent pas. Les députés de l'opposition présentent des candidats, pas les mêmes. Le Rassemblement national en aura un, la NUP en aura un autre, peut-être que LR en aura un troisième. Et puis, ils votent. Et celui qui a le plus grand nombre de voix... est élu président de la commission des finances. C'est aussi simple que ça. C'est... Et c'est probablement quelqu'un de la NUP qui l'emportera parce qu'ils sont les plus nombreux. Il suffit que ce soit un socialiste compatible, par exemple, pour que ça ne gêne personne.
Vous avez complètement raison. Par exemple, on imagine que la candidature de Valérie Rabault pourrait être une solution, puisque c'est la présidente du groupe socialiste. Si le gouvernement éventuellement voulait opposer vraiment un non frontal à la France insoumise, à qui en théorie devrait revenir la présidence de la commission des finances, puisqu'ils sont la première force à l'intérieur de la NUP, eh ben, on pourrait trouver un compromis autour d'une personnalité socialiste ou écologiste. Donc ça, c'est en effet une possibilité. Mais en tous les cas de figure, là où vous avez raison, c'est que l'idée de dire que c'est forcément le principal groupe d'opposition qui doit avoir la présidence de la commission des finances, c'est en tout cas pas une règle fixée, c'était un précédent lié au fait qu'il n'y avait pas de coalition.
Elisabeth Borne va faire un discours de politique générale le 5 juillet, c'est pas obligatoire, mais elle va le faire. Elle n'est pas obligée, vous nous l'avez rappelé, de soumettre son gouvernement à un vote de confiance, mais la France insoumise a l'intention ce jour-là de déposer une motion de censure, elle peut le faire, elle dispose à elle seule de plus du dixième de l'Assemblée, ce qui est le nombre requis de députés, mais est-ce que ça peut aboutir ?
Alors non, a priori c'est très très peu probable. Ce que pourrait déclencher en effet la NUP en cas de demande de confiance, c'est d'essayer d'engager la responsabilité du gouvernement et de montrer par une faible majorité que le gouvernement jouit d'une légitimité limitée. Mais en revanche, il est peu probable, à moins qu'il y ait une coalition de la NUP, du RN et des LR pour faire réussir une motion de censure, il est peu probable qu'à ce stade on puisse faire chuter le gouvernement de cette manière.
On a aussi beaucoup parlé du pouvoir de dissolution de l'Assemblée dont dispose le président de la République. Et là aussi, on a dit pas mal de bêtises. Emmanuel Macron peut dissoudre quand il veut.
Ah, il peut absolument dissoudre quand il veut. La seule chose,
demain,
c'est qu'il ne peut
s'il
dissoudre
le veut,
qu'une seule fois par an.
Voilà.
Demain, s'il en a envie, il peut démettre le Premier ministre, il peut dissoudre le Parlement. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a probablement un peu un problème dans notre 5e République qui est censée respecter l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. En réalité, en France, le législatif est parfaitement soumis au pouvoir exécutif. C'est-à-dire que le président de la République peut dissoudre quand il veut, avec une seule limite, c'est qu'il ne peut dissoudre qu'une seule fois par an. Et il peut, lui, démettre le gouvernement lorsqu'il le souhaite. S'il considère demain qu'Elisabeth Borne ne fait plus l'affaire, il n'a pas à se justifier pour la remplacer. On se souvient encore une fois d'un précédent. En 1991, par exemple, alors que Michel Rocard avait plutôt rendu satisfaction dans son poste de Premier ministre, bien François Mitterrand, sous une absence totale de prétexte, avait décidé qu'il fallait qu'il cède sa place à Édith Cresson. Le président de la République n'a pas à se justifier de cela, ni même de la dissolution du Parlement sur le plan institutionnel. En revanche, le président doit toujours justifier politiquement sa démarche, parce que sinon le risque, c'est qu'elle ne soit pas comprise ni par ses électeurs, ni par l'opposition. Si demain Emmanuel Macron devait dissoudre sans expliquer pourquoi, eh bien évidemment le grand risque pour lui, c'est de se retrouver non pas avec une majorité relative, mais d'être mis en minorité. C'est ce qui était arrivé à Jacques Chirac en 1997, lorsqu'il avait dissous là une chambre avec une très grande majorité en espérant faire un coup politique. Et finalement, c'était Lionel Jospin, le Parti Socialiste et la Gauche Plurielle, une autre coalition qui s'était installée à Matignon.
Dernier détail, certains ont dit qu'Emmanuel Macron pourrait avoir un problème de légitimité sous prétexte qu'il a été réélu avec seulement 38,5% des inscrits, étant donné la grosse abstention, l'abstention massive. Et il faut dire qu'un seul député a fait un peu plus que lui, c'est celui de Wallis et Futuna, qui a eu 38,8% des inscrits. Tous les autres ont fait moins. 95% des députés ont été élus avec moins de 30% des inscrits et pas un seul avec plus de 40%. Olivia Grégoire, la porte-parole, fait partie des trois députés les mieux élus de France avec 35,49% des inscrits, soit 68,51% des suffrages exprimés. On ne devrait plus parler de légitimité maintenant.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça veut dire que parler uniquement en termes d'inscrits ne fait pas beaucoup de sens pour les raisons que vous venez de formuler. Ça voudrait dire que la plupart des députés de l'opposition ont encore moins de légitimité que le président de la République.
Ça ne doit pas nous contraindre
à dire bah, finalement, bah, il n'y a pas de problème, la caravane passe, c'est pas très grave. Je pense qu'il y a quand même une difficulté parce qu'en politique, la légitimité, elle n'est pas seulement institutionnelle. Il y a dans la nature du capital charismatique, hein, le fait qu'on vous soutient parce qu'on vous admire, parce qu'on considère que vous êtes légitime à être à la place où vous êtes, eh bien, ce sentiment de légitimité, il est relatif, il peut se retourner très vite. Hein. Un mouvement social, par exemple, peut tout à fait être très légitime à contester le pouvoir jusqu'à le faire chuter. C'est une possibilité, même si pourtant ce mouvement social n'a pas été élu. Mais en fait, en démocratie, il y a plein de formes de manifester, de façon de manifester son opposition au pouvoir. Et ce pouvoir peut devenir illégitime alors même qu'il est le produit d'une élection si à un moment donné, eh bien là, se retourne un consensus national ou se fait jour une attaque très forte qui mine une capacité à agir. Et c'est ça le risque, à mon avis, pour Emmanuel Macron. C'est non pas, bon, ces questions de légitimité sont des arguments politiciens, c'est pas très grave. Mais en revanche, ce qui se fait sentir dans le pays, c'est qu'il y a une contestation de la manière dont le président de la République agit au nom de l'intérêt général, sa façon de pratiquer le pouvoir est contestée. S'il n'en change pas, il est possible que cela se mue en une crise politique très grave. On en avait vu certaines prémices lors des Gilets jaunes en 2018 et le président de la République avait dû évoluer sur certaines de ses actions, de ses idées. Eh bien, on pourrait imaginer qu'avec cette crise institutionnelle ou cette crise politique liée à la situation du Parlement, eh bien, Emmanuel Macron a des difficultés justement à affirmer cette légitimité.
Merci Vincent Martini, merci pour toutes ces précisions. Vous vous souvenez sans doute du couloir de Danzig, hein, qui a été le point de départ de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, vous allez adorer le couloir de Suwalki, dont on vient de nous rappeler l'existence cette semaine. On fait une pause et on en parle.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Le couloir de Suwalki pourrait être à la Troisième Guerre mondiale ce que le couloir de Danzig a été à la Deuxième. Il s'agit en effet d'une bande de terre de 35 km de long qui relie le port de Kaliningrad, peuplé d'un million d'habitants, qui appartient à la Russie, mais se situe à l'intérieur de l'Union européenne, entre la Pologne et la Lituanie, sur la Baltique, et qui relie donc Kaliningrad à la Biélorussie. Bonjour Patrick Martin-Jeunier.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste de l'Europe. Vous venez d'ailleurs de publier « L'Europe a-t-elle un avenir ?» aux éditions Studirama. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots d'où vient ce morceau de Russie enclavé dans l'UE ?
Bien, écoutez, c'est un morceau qui est resté russe depuis l'indépendance de la Lituanie et l'écroulement du communisme et de l'Union soviétique. La Lituanie est devenue indépendante, mais cependant, cette oblast de Kaliningrad est restée russe et indépendante. C'est effectivement ce qu'on peut appeler une enclave russe dans l'Union européenne. C'est un territoire russe qui compte un million d'habitants, qui représente quelque chose de stratégique pour la Russie, car c'est donc le débouché sur la mer Baltique, dont on sait que c'est devenu en quelque sorte la mer de l'OTAN. Donc c'est quelque chose de tout à fait stratégique pour la Russie, et c'est un territoire que ne veut pas abandonner Moscou, naturellement, et qui ne veut pas prendre le risque qu'un tel territoire pourrait éventuellement revendiquer une indépendance ultérieurement.
Alors, le couloir de Suwalki relie Kaliningrad à la Biélorussie, je l'ai dit, mais il est contrôlé par la Lituanie, mais c'est aussi le seul passage terrestre qui relie les trois États baltes aux autres États de l'OTAN. Là aussi, il est stratégique. Hein, il est stratégique pas seulement pour la Russie, il est stratégique aussi pour nous.
Oui, bien sûr, il est stratégique pour tout le monde.
Or, dans cette région donc particulièrement stratégique, la Lituanie a appliqué automatiquement les sanctions décidées par l'Union européenne à l'encontre du commerce russe. Elle a donc interdit le transit du pétrole, du charbon, du fer, de l'acier, du ciment et de l'alcool, soit 40 à 50% des approvisionnements de Kaliningrad, une décision très lourde de conséquences.
Oui, c'est une décision lourde de conséquences pour cette enclave qui, comme vous dites, produit beaucoup de marchandises, de matières premières, qui exploite également et qui a besoin de ces matières et de composants électroniques également pour faire fonctionner, produire, faire des produits fonctionner son économie et notamment pour des armements, car il y a des armements. Et donc, c'est des sanctions qui sont très dures, qui vont avoir des conséquences sur cette enclave et qui, naturellement, l'Iran, cela est très mal considéré par la Russie, qui considère que de facto, il s'agit d'un blocus. Mais comme vous l'avez dit, Vilnius a appliqué de façon automatique des sanctions qui ont été décidées par l'Union européenne. Et c'est peut-être ça la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas pris en compte la spécificité de ces territoires, l'aspect tout à fait symbolique et stratégique que représente l'oblast de Kaliningrad pour la Russie, et toujours avec cette angoisse de la part du Kremlin, c'est un territoire qui, à terme, pourrait faire sécession. Il ne faut pas oublier, par exemple, que Kaliningrad est bien plus proche de Berlin, par exemple, 600 kilomètres, que de Moscou, 1200 kilomètres. Donc il y a toujours cette crainte que cette enclave puisse un jour faire sécession. Et c'est cette angoisse qui ressort aujourd'hui, dans la mesure où on considère que ces sanctions économiques pourraient encore éloigner Kaliningrad bien plus du Kremlin aujourd'hui qu'hier.
Il faut dire que Kaliningrad, c'est l'ancienne Königsberg, hein, l'ancienne capitale des chevaliers teutoniques. Elle est devenue soviétique après la Seconde Guerre mondiale. On fait une pause, Patrick, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec Patrick Martin-Jeunier, qui est professeur à Sciences Po. On parle de cette enclave de Kaliningrad reliée à la Russie via la Biélorussie par le couloir de Suvalki, qui est un peu l'équivalent du couloir de Dantzig. On s'en souvient, qui avait été le point de départ de la Seconde Guerre mondiale. La Lituanie a donc appliqué les sanctions. Elle a bloqué le transit dans le couloir entre Kaliningrad et la Biélorussie. La Russie est furieuse, car il existe un traité conclu il y a 20 ans entre la Russie et l'Union européenne. Cette voie de transit était une des conditions imposées à la Lituanie, qui est une ancienne république soviétique, à son indépendance et au moment de son adhésion à l'UE. Ce couloir est protégé donc par des traités internationaux. Il devrait vraiment être exclu des sanctions ?
Écoutez, c'est une vraie difficulté juridique. Vous avez raison, parce que il y a un droit pour cette enclave de continuer à recevoir des marchandises. Et il y a une sorte de un choc juridique entre les sanctions décidées par l'Union européenne et ce droit qui résulte effectivement, vous l'avez dit, d'un traité de pouvoir assurer la libre circulation des marchandises pour les habitants de Kaliningrad. Encore une fois, 1 million d'habitants. Il y a effectivement une réelle difficulté et je pense que l'Union européenne n'a peut-être pas vu la singularité de ce territoire. Car Kaliningrad, qui est en quelque sorte enclavé dans l'Union européenne, eh bien, la Russie pourrait considérer qu'il s'agit d'un blocus contraire aux règles internationales. Et c'est vrai que sur ce point, on n'a peut-être pas pris suffisamment en compte la spécificité à la fois géographique et stratégique de cette région. En appliquant des sanctions économiques automatiques de la part de la Commission, peut-être que Vilnius s'est mépris un peu sur le sens et sur la portée de ces sanctions, alors que, comme vous l'avez dit, il y a un traité international qui est là pour assurer cette liberté de circulation des marchandises. D'une certaine façon, on pourrait considérer que cette enclave, oui, pourrait être éventuellement exclue des sanctions contre la Russie.
Mais on se demande quand même pourquoi la Lituanie agit de la sorte. Elle est quand même au fait des préoccupations russes. Elle sait que Kaliningrad, c'est l'un des endroits les plus militarisés du monde aujourd'hui.
Il y a du stock de matériel militaire stratégique qui donne sur la mer Baltique. C'est le seul point, effectivement, où des industries militaires, on parle même de stockage d'armes nucléaires, le seul point dans lequel la Russie peut concentrer ce type d'armement. Mais la Lituanie, comme vous savez, qui est un pays qui a vécu sous le joug communiste, soviétique, eh bien, tient farouchement à son indépendance. Ceci dit, effectivement, peut-être qu'on a appliqué de façon aveugle cette politique de sanctions, alors que Vilnius, d'une façon un peu gêné, se réfugie aujourd'hui derrière le caractère automatique des sanctions décidées par la Commission européenne. Donc c'est vrai que c'est un point sensible et c'est pour ça que la Russie a promis des sanctions qui pour l'instant sont diplomatiques, mais certains ont envisagé qu'il faudrait peut-être un jour prendre le contrôle de ce couloir de Suvalki. Et un député de la Douma a même évoqué le fait qu'il faudrait révoquer l'indépendance de la Lituanie. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une sorte de montée sur le plan verbal de ce conflit et cela pourrait déboucher éventuellement sur des incidents d'ordre militaire. Mais vous savez que lorsqu'un député de la Douma dit quelque chose, c'est souvent un message envoyé au Kremlin, une menace également envoyée à l'Occident et à l'Union européenne. Et là, en l'espèce, la menace, c'est de dire ne faites surtout pas ce qui a pu être fait à Berlin. Rappelez-vous, Berlin-Ouest, qui était également une enclave, le blocus de Berlin-Ouest. Si vous faites la même chose, il pourrait y avoir des conséquences, pas uniquement diplomatiques, mais également d'ordre militaire. Donc c'est clairement un avertissement envoyé à l'OTAN et aux pays de l'Union européenne.
Oui, la Russie pourrait vouloir s'emparer du couloir de Suwalki. Enfin, vous prononcez Suwalki, vous avez sûrement raison. Alors, sachant que l'OTAN, en plus, a renforcé sa présence dans la région, notamment aux Pologne, effectivement, on est obligé de se souvenir du couloir de Danzig.
Si vous voulez, c'est plus qu'un endroit stratégique, c'est également un espace tout à fait symbolique. Ça fait 30 ans que la Lituanie est indépendante et donc on voit bien aujourd'hui que les nouvelles générations qui vivent, même russes, hein, qui vivent dans cet oblast de Kaliningrad, se sentent au final aussi européennes que russes. La grande angoisse de la Russie aujourd'hui, c'est qu'un jour, il y ait une volonté de cette jeune génération de se tourner plus vers l'Union européenne que vers la Russie, notamment sur les habitudes de consommation, sur la liberté politique, sur la gouvernance. Et on voit bien que c'est une angoisse, effectivement, de la part de la Russie que de perdre le contrôle sur cette région qui présente encore une fois un caractère stratégique, quelque chose que ne peut pas se permettre le Kremlin.
Merci Patrick Martin-Jeunier. Je renvoie à votre livre « L'Europe a-t-elle un avenir ?» qui est paru aux éditions Studirama. On a maintenant rendez-vous avec quelqu'un qui a été une grande productrice de cinéma. C'est Albina Dubois-Rouvray.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Bonjour Albina Dubois-Rouvray.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous avez été l'une des premières femmes productrices de cinéma. On vous doit des films comme Les Oiseaux, le premier film de Pascal Thomas, L'Important c'est d'aimer avec Romy Schneider, Police Python 357 avec Montand et Signoret, Force à Gagne avec Depardieu et Sophie Marceau. Aujourd'hui, vous publiez vos mémoires chez Flammarion, Le courage de vivre. Il faut dire que vous avez vécu une tragédie, hein, la mort de votre fils unique, François-Xavier Bagnou, lors du Paris-Dakar de janvier 86, dans le crash de l'hélicoptère à bord duquel il transportait Daniel Balavoine et Thierry Sabine. D'où vous vient ce courage de vivre qui, ce jour-là, était quand même mis à rude épreuve ?
Bien sûr que ça a été mis à rude épreuve, mais ça m'est venu de ce que François avait eu beaucoup de courage de choisir ce qu'il faisait. Il aurait été honteux de voir sa mère ne pas survivre. Et ça m'a vraiment donné beaucoup de courage. Et puis aussi parce que je voulais continuer absolument. En fait, c'était quelque part un défi contre la mort et contre le malheur et la douleur. Je voulais continuer son sauvetage, tout ce qu'il aurait donné au monde pour aider dans son domaine à lui. Et je voulais faire ce sauvetage dans le sens large du terme pour les enfants les plus démunis de l'époque qui étaient les orphelins du sida. Et les enfants dans une extrême pauvreté.
Ce que vous faites depuis plus de 30 ans maintenant, on va y revenir. Mais au départ, Albina Dubois-Rouvray, vous êtes par votre mère la petite fille d'un des hommes les plus riches du monde, Simon Patino, le roi de l'étain, qu'on surnommait le Rockefeller des Andes. Il était bolivien. Et par votre père, vous êtes la cousine de la famille princière de Monaco. Vous êtes née avec ce qu'on appelle une cuillère en argent dans la bouche. Alors,
ça fait beaucoup de bling-bling, Frédéric, tout ça.
Oui, mais justement, je me suis dit, en découvrant ça, parce que je l'ignorais, je vous connaissais en tant que productrice, mais je ne connaissais pas ça, je me suis dit, mais vous avez, alors que vous avez vécu enfant à l'année dans les palaces, on dirait que ça vous a endurci. On pourrait croire le contraire, mais vous avez développé une espèce d'instinct de survie qu'on croit réservé normalement aux pauvres et aux déshérités.
Oui, bien sûr, parce que mon instinct de survie est né de, probablement de ce que j'avais pas de mère, en fait. J'en avais une, mais elle n'existait pas en tant que mère. Et que j'avais aussi une enfance qui était tellement chaotique et tellement dysfonctionnelle dans une famille que je trouvais très, très dysfonctionnelle, où il y avait le luxe, oh là, ça il y en avait. Mais côté affection, côté famille, côté attention, c'était vraiment la banquise.
Oui, quand on vous dit, c'est
donc,
effectivement
je
ça.
Je pense qu'effectivement, très très tôt, j'ai compris que je devais simplement compter sur mes propres forces. Et je l'ai compris à 7 ans. Quand on m'a expédié en Europe, alors que je ne parlais pas la langue, et qu'on m'a privé de la nanny familiale qui avait élevé tous les petits-enfants. Je tiens à dire que mon grand-père était richissime à son époque. Hein. Puis, tout a été nationalisé ensuite. Ils ont fait pas mal de mauvaises affaires. Bon, ils sont restés très riches, mais pas du tout ce que c'était dans les années 40.
Oui.
Et donc, moi, j'ai toujours vécu à côté. Parce que quand j'étais petite, vous savez, les enfants n'étaient pas inclus dans la vie familiale. Et on vivait dans les hôtels. Donc, je n'étais pas inclus au repas ni rien. On allait visiter ses grands-parents. On visitait ses parents le matin pendant un quart d'heure. Et ensuite, quand j'étais toute seule en Suisse, à 7 ans, là, vraiment, je me suis dit, je comprends très, très bien ce que Mao veut dire quand il dit qu'il faut compter sur ses propres forces, parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti à cet âge-là.
Et vous avez toujours voulu changer le monde. Vous avez fraternisé avec la plupart des mouvements révolutionnaires de votre époque. Et Dieu sait s'ils pullulaient, de Cuba aux Black Panthers, des hippies à mai 68, du MLF... à Médecins du Monde, pour ainsi dire. Ouais. Vous avez même vécu, vous le racontez, avec un député communiste italien. Et vous allez rompre d'ailleurs avec eux dès lors que vous créerez votre société de production. Au fond, le jour où vous devenez capitaliste,
Je ne romps pas. Je romps avec mes groupes gauchistes parce qu'ils étaient devenus extrêmement terroristes. Quand je me suis retrouvée dans cette réunion où il y avait tous les brigades rouges, les Palestiniens, l'armée rouge, tout le monde, j'ai compris qu'on partait vers le terrorisme. Et je n'avais aucune intention de tuer des civils innocents, alors que je voulais changer le monde, bien sûr, mais pas comme ça, dans la fraternité, dans la solidarité, dans la révolution telle que nous l'avons imaginée et rêvée en 68.
Quand on lit votre livre, Alvida Dubois-Rouvray, Dieu sait s'il est mouvementé, vous faites draguer par un nombre de gens invraisemblables. Vous étiez très très jolie, il faut bien le reconnaître. Par exemple, vous faites draguer par John Kennedy alors qu'il est encore sénateur.
Oui, j'étais horrifiée parce que je pensais parler politique avec lui. J'étais très très passionnée par la guerre d'Algérie. Moi, j'étais complètement...
Enfin, vous étiez très jeune à ce moment-là.
Oui,
mais est-ce qu'il était aussi séduisant qu'on le dit aujourd'hui?
Oui, il était séduisant, bien sûr, il était très séduisant. Mais enfin, j'étais tellement horrifiée de ce qu'il me parlait que de boîte de nuit, où est-ce qu'il pouvait me rencontrer à New York, alors que je voulais vraiment avoir une conversation très très sérieuse sur l'économie américaine, sur l'Algérie, la position des Français qu'ils combattaient par ailleurs, etc.
Vous êtes devenue productrice de cinéma à une époque où on ne finançait pas un film en allant voir des chaînes de télé ou les régions. Les producteurs étaient vraiment indépendants à cette époque-là. Comment est-ce qu'on trouvait l'argent?
Ben justement, on trouvait l'argent quand même de temps en temps avec une chaîne de télé à la fin, dans les années 80. Mais au début, on trouvait l'argent par les distributeurs français qui finançaient, s'ils aimaient le sujet, la moitié à peu près du budget. Ensuite, on faisait des coproductions. C'est pour ça qu'on prenait, heureusement, il y avait Romy Schneider pour l'Allemagne, parce que c'était une actrice merveilleuse, donc c'était un plus pour le film. Mais elle apportait la coproduction italienne.
Ou Fabio Testi pour l'importance et des mets pour l'Italie, mais c'était pas un acteur extraordinaire. Lui.
Mais il n'avait pas grand-chose à faire qu'avec un truc à photographier avec son appareil. Je trouve qu'il était très beau et qu'on pouvait comprendre qu'elle craque pour un mec comme ça quand même.
Vous étiez une femme et beaucoup de gens savaient à l'époque que vous étiez une héritière. Est-ce que ça vous a posé...
Future héritière. Oui, quand ma mère est morte quand j'avais 19 ans, j'ai rien hérité du tout. Oui. C'est mon père, heureusement d'ailleurs. Sinon, je pense qu'à l'époque, j'aurais distribué ça à Outupamaro, à tous les groupes.
Mais est-ce que ça vous a posé des difficultés? Est-ce à la fois d'être une femme dans un milieu qui est presque exclusivement composé d'hommes?
Ça a posé beaucoup de difficultés. On était très très peu de femmes. On était extrêmement discriminées, un peu méprisées par les mecs.
Vraiment?
Et il fallait... Oui. Ils nous trouvaient, très bien, vous êtes gentils, mais tenez-vous-en aux films d'arrêt d'essai, aux histoires d'amour.
Pourtant, vous avez fait de sacrés succès.
Alors, moi, j'ai fait justement des gros films de mecs, et je raconte comment j'étais très, à la fois flattée et vexée quand Lino Ventura m'a dit « Ah ben dis donc, t'es un vrai petit mec, toi. » Je lui ai dit « C'est bien, je suis comme t'es dans le club. » Mais en même temps, j'étais vexée qu'ils ne prennent pas en considération ma qualité, ma capacité de femme dans ce milieu et de mes réussites.
C'est ça qui est dur, hein.
Oui,
c'est ça qui était.
Mais maintenant, heureusement, ça a changé beaucoup.
Les producteurs en France doivent lutter avec le droit moral des réalisateurs qui sont les vrais auteurs du film et donc les vrais patrons au fond. Mais d'après ce que vous racontez, au fond, ce sont surtout les stars qui vous ont posé des problèmes, que ce soit Romy Schneider, que vous adoriez. Sur le tournage de L'importance est d'aimer, Yves Montand sur le tournage de Python.
J'ai raconté tout, c'est amusant ces anecdotes.
Oui,
c'est l'intérieur du cinéma.
Ou Depardieu sur Force Hagen. Et on se dit... Au fond, c'est les stars qui emmerdent les producteurs plus que les cinéastes.
Parce que c'est pendant le tournage. Et pendant le tournage, comme je disais, le temps, c'est de l'argent. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir des retards, on ne peut pas se permettre d'avoir des décors qui ne marchent pas, on ne peut pas se permettre d'avoir des caprices qui font que la machine ne tourne pas rond. Tandis que, évidemment, dans l'écriture du scénario, à la réalisation du film, une fois qu'il est terminé, monté, etc., qu'il doit être coupé parce qu'il est trop long, là, c'est la lutte entre le réalisateur et les producteurs. Alors qu'en Amérique, il n'y a pas cette loi. Il n'y aurait pas eu ces grands producteurs qu'il y a eu au début du cinéma, comme les Louis B. Mayer, etc., et Goldwyn, etc., tous ces grands producteurs, Selznick. S'il y avait eu cette loi, je pense, parce qu'ils ont fait beaucoup de changements à la fois dans le tournage et à la fois au montage.
C'est pour ça qu'aux
États-Unis... Alors c'était toujours une bagarre, mais moi j'aime bien me bagarrer. Alors je veux dire, c'était... que dans ce que j'ai là, où j'ai contourné le droit moral de l'auteur dans l'importance des mets, c'était simplement, finalement, une ruse d'arriver à faire un plan de travail qui fait que, à partir du moment où on n'avait plus d'argent, à partir du moment où on devait s'arrêter de tourner, le film avait sa longueur voulue et les scènes indispensables.
C'est la mort de votre fils qui a mis fin à votre activité de productrice. Vous êtes tournée vers l'humanitaire avec Médecins du Monde d'abord, et puis vous avez créé une fondation à son nom, François-Xavier Bagnou. Ça fait 35 ans maintenant, vous vous occupez des enfants des autres, et cela dans le monde entier.
Absolument, et vous voyez, moi ce que j'ai voulu faire, c'est toujours, j'avais l'impression d'être sur le mauvais tapis roulant de ma vie. Mais j'avais mon fils, j'avais ma carrière, et je voulais l'avoir parce que je voulais être indépendante financièrement justement de mon père. Et je me disais, je ne peux pas changer de vie, là, ce n'est pas possible, je suis embarquée dans cette vie. Mais je n'ai pas exactement la vie où je sentais que j'aurais pu être justement utile et faire quelque chose pour changer quelque chose de mieux dans la vie des gens les plus démunis, les plus destitués. Dans ce temps, c'était les enfants, et à cause du sida, les orphelins du sida. Et donc, je continue à travers le monde, c'est vrai, depuis 35 ans, de créer des programmes pour eux et pour leurs familles, pour que les familles puissent les élever, pour que les familles sortent de l'extrême pauvreté. J'ai créé en 91 ce programme des villages FXB qui permet aux familles les plus pauvres en 3 ans de devenir des petits entrepreneurs et d'être pas faire partie de leur petite économie locale, parce que j'ai remplacé ce qui était absolument un sacrilège à l'époque. Tout le monde trouvait que j'étais à la fois folle, que je dépensais certainement l'argent de la fondation sans savoir ce que je faisais, mais ça marche. Ça leur permet, en leur donnant l'entreprise, en payant directement pour l'entreprise sans qu'ils passent par le microcrédit, c'est l'étape avant le microcrédit, en 3 ans, ils ont le pied à l'étrier de devenir des entrepreneurs, et ils le deviennent par leur travail énorme, courageux et immense. Et ça leur permet non seulement d'élever leurs propres enfants qui étaient dans l'extrême pauvreté, mais aussi de recueillir les enfants qui sont orphelins de la guerre ou de la maladie.
Et c'est ce qui fait que toute la dernière partie de votre livre, Le Courage de vivre, est tout à fait passionnante, parce que c'est plein de rebondissements.
Oui,
de la même manière, il n'y a pas que le cinéma au fond, hein, qui offre des
rebondissements. Non, justement, peut-être que j'ai trop insisté sur les deux premières villes, ma rébellion et mon fils, mais c'était le socle du troisième. Moi, je suis morte au bout des deux. Quand mon fils est mort, je suis morte avec lui en même temps. Je n'ai plus existé du tout. Et je me suis régénérée en faisant justement cette action humanitaire avec Médecins du Monde, en étant bénévole chez eux pendant 2 ans, avec l'intention de faire quelque chose qui porterait le nom de François et qui continuerait son sauvetage. Et je suis née à nouveau ce jour-là. C'est peut-être pour ça que je ne me sens pas du tout être dans le corps que j'ai, qui est assez vieux. Et je ne me sens pas du tout mon âge, hein. Je me sens très très jeune, je m'entends très bien avec les jeunes, parce qu'au fond, je n'ai que 35 ans d'existence.
Merci Albina Dubois-Rouvray d'être venue sur Europe 1 ce matin. Votre livre, Le Courage de vivre, est paru chez Flammarion.
Merci beaucoup Frédéric Tadi.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine et terminé. On se retrouve demain matin à 9h. Dans un instant, ce sera Pierre de Villeneuve et les Grandes Voix. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Quel est le programme ?
Bonjour Frédéric. Avec bien sûr la très puissante Cour suprême américaine qui révoque le droit à l'avortement, premier sujet. On parlera évidemment du président Macron qui est apparu bien seul mercredi soir lors de son allocution aux Français sans majorité absolue. Que compte-t-il faire ? En Ukraine, le Donbass est en passe de tomber définitivement dans les mains des Russes. Et puis, vous le vouliez, ce feuilleton de l'été, ben vous l'avez. Ça s'appelle le variant BA4, BA5.
Merci Pierre, bonne émission.
Merci.